Chapitre 14. Instructions diverses. Les responsabilités d'un peuple saint. Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous ferez pas de tonsure entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Versets 1 et 2. Ces versets mettent devant nos yeux la base de tous les privilèges et de toutes les responsabilités d'Israël. On sait qu'il faut être dans une relation avant de pouvoir connaître les affections qui s'y rapportent ou de pouvoir remplir les devoirs qui s'y rattachent. Si un homme n'est pas père, aucun raisonnement, aucune explication ne pourra lui faire comprendre les sentiments ou les affections d'un cœur de père. Mais dès le moment où il est entré dans cette relation, il sait ce qu'il en est. Il en est ainsi dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons comprendre les affections ou les devoirs d'un enfant de Dieu jusqu'à ce que nous soyons sur ce terrain. Il nous faut être chrétiens avant de pouvoir accomplir les devoirs du chrétien ou savoir quelque chose des affections du chrétien. Or, c'est évidemment la prérogative de Dieu de prescrire à ses enfants comment ils doivent se conduire. À eux incombe le privilège et la responsabilité de chercher en toute chose son approbation. Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision. Il lui appartenait, c'est pourquoi il n'avait pas le droit de se faire des incisions ou de se défigurer pour les morts. Les gentils, ignorants et incirconcis, pouvaient se défigurer. Ils ne connaissaient pas Dieu et n'étaient pas en relation avec lui. Mais les Israélites étaient sur un terrain saint et élevé de proximité avec Dieu, et ce fait devait donner le ton et le caractère à toutes leurs habitudes. Ce n'était pas pour devenir enfants de Dieu qu'ils devaient s'abstenir de certaines coutumes ou en adopter d'autres. Mais, parce qu'ils étaient ses enfants, leur devoir était d'agir comme tels. Tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. Il n'est pas dit « Vous devriez être un peuple saint ». Aucun effort venant d'eux-mêmes n'aurait jamais pu faire d'eux un peuple saint. Mais Dieu, dans sa grâce souveraine, conformément à son alliance avec leur père, avait fait d'eux ses enfants, un peuple particulier parmi toutes les nations qui étaient sur la terre. Toutes leurs habitudes, leurs actes, leur nourriture, leurs vêtements, tout ce qu'ils faisaient, devait découler du grand fait qu'ils étaient les enfants de l'Éternel, leur Dieu, le peuple de son choix, un peuple qui était sa propriété spéciale. Pour celui qui aime réellement Dieu, il est infiniment précieux de penser qu'il est tout près de nous, de savoir qu'il s'intéresse aux moindres détails de notre vie. Sa sollicitude pour nous surpasse celle d'une mère pour son nourrisson. Si nous le réalisions plus pleinement, notre vie et notre témoignage seraient tout autres. La nourriture du monde et la nourriture du chrétien. Dans les versets 3 à 20, nous avons la loi relative aux bêtes pures et impures. Ce sujet a déjà retenu notre attention à propos du chapitre 11 du Lévitique, et nous y renvoyons le lecteur. Remarquons toutefois une différence entre ces deux portions des Écritures. Dans le Lévitique, les instructions sont données premièrement à Moïse et à Aaron, tandis que dans le Deutéronome, elles sont données directement au peuple. Cela caractérise parfaitement les deux livres. Le Lévitique est le guide du sacrificateur. Dans le Deutéronome, au contraire, les sacrificateurs sont laissés à l'arrière-plan. Le peuple occupe la première place. Au verset 21, la distinction entre l'Israélite et l'étranger est présentée d'une manière frappante. « Vous ne mangerez d'aucun corps mort. Tu le donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il le mangera. Ou tu le vendras au forain. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. » La relation d'Israël avec l'Éternel les séparait entièrement de toutes les autres nations. En eux-mêmes, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Mais l'Éternel était saint, et ils étaient son peuple. « Soyez saints, car moi je suis saint. » 1 Pierre 1, verset 16. Les gens du monde ont souvent l'idée que les chrétiens se montrent orgueilleux lorsqu'ils refusent de prendre part aux plaisirs et aux amusements du monde. Mais en réalité, ils ne comprennent pas la question. Lorsqu'un chrétien participe aux vanités et aux folies d'un monde de péché, c'est comme si un Israélite avait mangé quelques bêtes mortes d'elles-mêmes. Dieu soit loué, le chrétien a pour se nourrir quelque chose de meilleur que les choses mortes de ce monde. Il a le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 51. La vraie manne. Et non seulement cela, mais il se nourrit de Christ ressuscité, glorifié dans les cieux. L'homme inconverti ne connaît absolument rien de cela. Il se nourrit de ce que le monde peut lui offrir. On ne peut s'attendre à ce que le monde voit ou sente comme nous, touchant ce qui est bien ou mal. Beaucoup de choses qu'un homme du monde peut faire sans problème ne peuvent être faites par un chrétien, et cela simplement parce qu'il est chrétien. La question que nous avons à nous poser, chaque fois qu'une chose se présente devant nous, est « Puis-je faire ceci à la gloire de Dieu ?» 1 Corinthiens 10, verset 31. « Puis-je le faire au nom du Seigneur Jésus ?» Colossiens 3, verset 17. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y toucher. Le mobile est la pierre de touche pour le chrétien en toutes circonstances, c'est Christ. Cela rend tout très simple. Tout ce qui est indigne de Christ est indigne d'un chrétien. C'est une règle pratique, applicable à mille détails. Si nos cœurs sont attachés à Christ, si nous marchons selon les instincts de la nature divine, fortifiés par l'action de l'Esprit et guidés par l'autorité des Saintes Écritures, les questions qui se présentent dans notre vie journalière seront vite résolues. Portons encore notre attention sur la dernière partie du verset 21. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Cette prescription est donnée en trois endroits différents, ce qui souligne son importance. Quelle instruction devons-nous en tirer? Nous croyons que ce passage nous enseigne que le peuple de Dieu doit éviter soigneusement tout ce qui est contraire à la nature. Or, c'était évidemment agir contrairement à la nature de faire cuire un animal dans ce qui était destiné à le nourrir. La parole de Dieu attache de l'importance à ce qui est selon la nature, à ce qui est convenable. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas ? 1 Corinthiens 11, verset 14, dit l'apôtre inspiré à l'assemblée de Corinthe. Il y a dans la nature certains sentiments et certains instincts que le Créateur y a placés et qu'il ne faut pas outrager. L'Esprit de Dieu peut souvent nous conduire au-delà et au-dessus de la nature, mais jamais contre elle. Les dîmes. Tu dîmeras exactement tout le rapport de ta semence que ton champ produira chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter, parce que le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, alors tu les donneras pour de l'argent, et tu serreras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et tu donneras l'argent pour tout ce que ton âme désirera, pour du gros ou du menu bétail, ou pour du vin ou pour des boissons fortes, pour tout ce que ton âme te demandera, et tu le mangeras, là, devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Et tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes portes, car il n'a point de part ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu mettras à part toute la dîme de ta récolte de cette année-là, et tu la déposeras dans tes portes. Et le Lévite qui n'a point de part ni d'héritage avec toi, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront, et ils mangeront et seront rassasiés, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout l'ouvrage de ta main que tu fais. Versets 22 à 29. Ce passage place devant nous avec une grande simplicité la base, le centre et les traits pratiques de la religion d'Israël. Le grand fondement du culte d'Israël était le fait que soit eux, soit leur pays, appartenaient à l'Éternel. Le pays était à lui. Ils n'en étaient que les tenanciers. Ils étaient appelés à rendre périodiquement témoignage à cette vérité en donnant fidèlement la dîme de tout ce que produisait leur pays. Ils reconnaissaient ainsi, d'une manière pratique, les droits de l'Éternel comme possesseur de la terre et ne devaient jamais perdre de vue qu'ils n'avaient aucun autre maître que l'Éternel, leur Dieu. tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient lui appartenait. Le rassemblement au lieu que Dieu avait choisi. Qu'en était-il du centre de leur culte? Ils devaient se rassembler au lieu que l'Éternel avait choisi pour y mettre son nom. Précieux privilège pour tous ceux qui aimaient vraiment ce glorieux nom. Nous voyons dans ce passage, comme aussi dans plusieurs autres, quelle importance Dieu attachait au rassemblement périodique de son peuple autour de lui. Il prenait plaisir à voir son peuple bien-aimé assemblé en sa présence, heureux en lui, les uns et les autres se réjouissant ensemble dans leur lot commun et se nourrissant du fruit du pays de l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment. Verset 23. C'était le seul lieu de rassemblement pour tous les Israélites sincères, pour tous ceux qui aimaient vraiment l'Éternel. Certains, peut-être, devaient parcourir de longues distances pour s'y rendre, mais le motif de leur voyage était « L'Éternel est là ». Choisir un autre lieu de rassemblement aurait été une désobéissance flagrante et aurait attiré un jugement de la part de Dieu. C'est ce qu'a fait l'impie Jéroboam pour servir ses vues politiques. 1 Roi 12, versets 26 à 33. Il eut la présomption de contrevenir au commandement divin et plaça des veaux d'or à Bethel et à Dan. Mais le culte offert en ces endroits l'était aux démons et non pas à Dieu. Quant à tous les Israélites fidèles, on était sûr de les trouver réunis autour du centre divin et ayant apporté là leurs offrandes. Dieu, dans sa sollicitude pour son peuple, avait pourvu au moyen de rendre ce lieu aussi accessible que possible. Si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les donneras pour de l'argent et tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta maison. Versets 24 à 26. L'Éternel trouvait sa joie à voir son peuple racheté, heureux en sa présence, et tous ceux qui aimaient son nom répondaient avec joie au désir de son cœur en se rassemblant autour de ce centre divin. Un Israélite qui aurait négligé l'occasion bénie de se réunir avec ses frères, au lieu et au moment désigné par l'Éternel, aurait prouvé qu'il n'avait pas de cœur pour Dieu ni pour son peuple. Jésus-Christ, centre de rassemblement. La volonté de Dieu maintenant, non moins qu'alors, est que son peuple se réunisse en sa présence sur un terrain et autour d'un centre que lui-même a indiqué. Quoique les dispensations de Dieu puissent différer, il y a certains grands principes qui demeurent toujours, et il en est ainsi quant au rassemblement du peuple de Dieu. Or, ce n'est pas de notre bonheur ou de ce que nous estimons le plus convenable qu'il s'agit, mais de la volonté de Dieu telle qu'il l'a exprimée dans sa parole. Tous les vrais chrétiens sont heureux de se trouver à la place que Dieu leur a désignée. C'est un immense bonheur d'être réunis en la présence du Seigneur. C'est une joie pour ceux qui l'aiment et qui s'aiment l'un l'autre que d'être réunis ensemble autour de lui, de rompre le pain ensemble en commémoration de sa mort, de faire monter vers lui et vers Dieu nos actions de grâce et nos louanges, de nous édifier l'un l'autre en bénéficiant des dons de grâce qu'il a donnés et de répandre nos cœurs devant lui en prière, en supplication et en intercession. Mais, je le répète, il ne s'agit pas de notre bonheur, c'est une chose toute secondaire. En ceci comme en toute autre chose, nous devons être guidés par la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. La question pour nous est simplement celle-ci. Est-il selon la pensée de Dieu que ses enfants se rassemblent pour le culte et l'édification commune? S'il en est ainsi, malheur à ceux qui, pour une raison quelconque, négligent de le faire. C'est assurément la volonté de Dieu que les siens se réunissent en sa présence. Nous sommes exhortés dans le 10e chapitre de l'Épître aux Hébreux à ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Verset 25. Une valeur, un intérêt et une importance particulière se rattachent à l'Assemblée. La vérité qui s'y rapporte commence à luire pour nous dans les premières pages du Nouveau Testament. Ainsi, en Matthieu 18:20, nous lisons ces paroles de notre Seigneur : « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous avons ici le centre divin, mon nom. Cela répond au lieu que l'Éternel choisira pour y placer son nom, paroles si souvent répétées et sur lesquelles il est tant insisté dans le livre du Deutéronome. Il était absolument nécessaire qu'Israël se réunisse en cet unique lieu. Il n'en est pas autrement pour l'Église. Il ne s'agit pas de choix humain, ni d'un jugement ou d'une opinion d'homme. Tout est divin. Le terrain de notre rassemblement est divin, car c'est la rédemption accomplie. Le centre autour duquel nous sommes rassemblés est divin, car c'est le nom de Jésus. La puissance par laquelle nous sommes rassemblés est divine, car c'est le Saint-Esprit. Et l'autorité sous laquelle notre rassemblement s'effectue est divin, car c'est la parole de Dieu. Tout cela est aussi clair que précieux, et tous nous avons besoin de simplicité de foi pour accepter cette vérité et agir en conséquence. La vérité quant à notre rassemblement est aussi claire et aussi incontestable que la vérité concernant notre salut. Si l'on demande comment nous pouvons être assurés d'être autour du centre de Dieu, nous répondrons simplement par la parole de Dieu. Il est vrai qu'il n'existe actuellement aucun lieu particulier désigné pour que tous les chrétiens s'y rendent périodiquement afin d'y adorer. Il y avait autrefois un tel lieu pour le peuple terrestre, et il y en aura un plus tard pour Israël rétabli dans sa terre et pour les nations. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, versets 2 et 3. Et encore, « Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que, celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. » Zacharie 14, versets 16 et 17. Ces passages nous reportent au temps glorieux où Jérusalem sera le centre choisi de Dieu pour Israël et pour toutes les nations. Vouloir appliquer de tels passages à l'Église, ce serait faire violence aux déclarations les plus claires de l'Écriture. Ce serait confondre les choses terrestres avec les célestes. Actuellement, c'est-à-dire depuis le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu pour former l'Église, le corps de Christ, jusqu'au moment où notre Seigneur descendra du ciel pour enlever les siens de la terre, il n'y a ni lieu, ni ville, ni localité sacrée, ni centre terrestre pour le peuple de Dieu. On trouve en Jean 4, dans le discours merveilleux de notre Seigneur avec la femme de Sichar, une précieuse instruction sur ce sujet. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi. L'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Versets 19 à 24. Ce passage met entièrement de côté la pensée qu'il puisse y avoir maintenant un lieu de culte spécial. Le Très-Haut n'habite point dans des demeures faites de mains. Acte 7, verset 48. Et encore, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. Acte 17, verset 24. L'enseignement du Nouveau Testament touchant le culte est très clair. Cependant, dès les temps les plus reculés de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu une forte tendance à retourner au judaïsme, non seulement quant à la justice devant Dieu, mais aussi quant au culte. Par un enseignement défectueux, les chrétiens ont été placés non seulement sous la loi, quant à la vie et à la justice, mais aussi, jusqu'à un certain point, sous le rituel lévitique pour l'ordre et le caractère de leur culte. De là, ce désir d'avoir de grands bâtiments, un rituel imposant, un ordre sacerdotal, des services splendides, des chœurs, etc. Toutes choses qui sont en opposition directe avec la pensée de Christ et les enseignements les plus précis du Nouveau Testament. Si l'apôtre Paul arrivait ici ou ailleurs un dimanche, où trouverait-il ce qu'il trouva en Troade le premier jour de la semaine, il y a 2000 ans, comme cela nous est rapporté dans les Actes, au chapitre 20, verset 7? Où trouverait-il des disciples rassemblés simplement par le Saint-Esprit au nom de Jésus pour rompre le pain en mémoire de lui, annonçant ainsi sa mort jusqu'à ce qu'il vienne? Tel était alors l'ordre divin, et tel il doit être maintenant. L'apôtre voudrait, sans aucun doute, avoir la table et la scène de son Seigneur telle qu'il l'avait reçue directement de lui, et comme il l'a transmis par l'Esprit dans son Épître aux Corinthiens, chapitre 10 et 11. Épître adressée à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. 1 Corinthiens 1, verset 2. Nous ne pouvons imaginer que l'apôtre ait enseigné l'ordre de Dieu dans le premier siècle et qu'il accepte le désordre de l'homme 20 siècles plus tard. L'homme n'a aucun droit de mêler ses propres pensées à une institution divine, ni d'y changer quoi que ce soit. Nous répétons notre question et nous supplions le lecteur de la peser sérieusement et d'y répondre en présence de Dieu et à la lumière de sa parole. Où l'apôtre trouverait-il cela, à Londres, à Paris ou dans quelque autre endroit de la chrétienté, le premier jour de la semaine? Où pourrait-il aller prendre place à la table de son Seigneur, dressé au milieu d'un rassemblement de disciples réunis sur le terrain d'un seul corps, autour d'un seul centre, le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et sous l'autorité de la parole de Dieu? Où trouverait-il une sphère dans laquelle il pourrait exercer ses dons sans une autorité, un appel ou une consécration humaine? Nous posons ces questions afin d'exercer le cœur et la conscience du lecteur. Nous sommes pleinement convaincus qu'il y a des endroits ici et là où Paul pourrait trouver ces choses réalisées, quoique dans la faiblesse et avec bien des manquements, et nous croyons que tout chrétien a la responsabilité de les découvrir aussi. Hélas, ces rassemblements sont en petit nombre et bien disséminés en comparaison de la masse des chrétiens qui se réunissent d'une autre manière. Nous pouvons être sûrs que l'apôtre ne pourrait consentir à participer à la scène du Seigneur que selon l'ordre divin tel qu'il est donné dans le Nouveau Testament. Il n'accepterait rien d'autre que la réalité divine. Il ne pourrait admettre aucune intrusion de l'homme dans une institution divine, aucun nouveau terrain de rassemblement, aucun nouveau principe d'organisation. Le principe de Dieu quant au rassemblement et à l'unité ne doit à aucun prix être abandonné. Dès l'instant où les hommes commencent à organiser, à former des sociétés, des églises, ils agissent en opposition directe avec la parole de Dieu, la pensée de Christ et l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour former l'Église de Dieu, le corps de Christ. Et c'est la seule Église, le seul corps, que l'Esprit reconnaisse. Toute autre organisation est contraire à Dieu, même si des milliers de vrais chrétiens s'y rallient. Dans le 6e chapitre de Daniel, nous trouvons le prophète en exil ouvrant sa fenêtre du côté de Jérusalem 3 fois par jour pour prier, bien qu'il ait su que la fosse aux lions serait son châtiment. Pourquoi se tournait-il ainsi du côté de Jérusalem? C'était une application magnifique du principe divin, un témoignage rendu au milieu des tristes et humiliantes conséquences du péché d'Israël. Jérusalem, il est vrai, était en ruine. Mais les pensées de Dieu concernant Jérusalem n'étaient pas en ruine. La ville était toujours le centre divin pour son peuple terrestre. Jérusalem était et sera le centre terrestre pour le peuple de Dieu. Mais maintenant, l'Église ne devrait reconnaître d'autre centre que le nom infiniment précieux et glorieux de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Précieux centre. C'est celui-là seul que le Nouveau Testament montre, autour de celui-là seul que le Saint-Esprit rassemble. Les dîmes de la troisième année. Nous terminerons en citant le dernier paragraphe de notre chapitre, dans lequel nous trouverons quelques enseignements très pratiques. Au bout de 3 ans, tu mettras à part toute la dîme de ta récolte de cette année-là, et tu la déposeras dans tes portes. Et le Lévite qui n'a point de part ni d'héritage avec toi, et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront, et ils mangeront et seront rassasiés, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout l'ouvrage de ta main que tu fais. Versets 28 et 29. Nous avons ici une scène bien touchante qui met en lumière le caractère divin et fait resplendir les rayons de la grâce et de la miséricorde du Dieu d'Israël. Quel contraste frappant avec le froid égoïsme du monde qui nous entoure. Dieu enseignait à son peuple à penser à tous les nécessiteux et à prendre soin d'eux. Les dîmes lui appartenaient, mais il laissait aux siens le privilège de les employer de manière à réjouir le cœur des autres. Il y a une douceur particulière dans ces mots « viendront, mangeront et seront rassasiés ». Notre Dieu prend son plaisir à répondre aux besoins de tous. Il ouvre sa main et rassasie à souhait toute créature vivante. Et non seulement cela, mais il trouve son plaisir à faire des siens les canaux à travers lesquels la grâce, la bonté et la sympathie de son cœur découlent pour tous. Quel privilège d'être des donateurs de la part de Dieu, les dispensateurs de sa bonté et de sa grâce. Cherchons à entrer plus pleinement dans les profondeurs de ces vérités. Si nous respirions davantage l'atmosphère de la présence divine, nous reflèterions plus fidèlement le caractère divin.